Pour nous, c'est un travail de construction de citoyenneté. En disant, la citoyenneté, ça peut être résoudre en direct des problèmes dans sa communauté, sur son territoire, mais parfois on a besoin qu'il y ait des politiques publiques, la puissance publique agisse. Et dans ce cas-là, le rôle du citoyen, c'est à la fois un rôle de veille, puis d'amener le problème, quoi. De faire en sorte que le problème, il remonte dans l'agenda.
Bonjour et bienvenue à toi. Une fois par mois, je te propose de boire un verre avec une créatrice ou un créateur de liens inspirants. Je m'appelle Anne-Paul, je suis coach professionnelle, animatrice et formatrice. Je travaille pour les secteurs du social et de la solidarité sur les thématiques d'accompagnement, de connaissance de soi, d'engagement et de pouvoir d'agir. Après avoir travaillé pendant 8 ans auprès des personnes à la rue à Paris, j'ai décidé de me former pour accompagner les professionnels et les bénévoles de ces secteurs. Ces personnes donnent tout, voire plus au service des autres, et je crée des outils pour les soutenir dans leur mission. Maintenant que j'ai différemment la tête dans le guidon, je prends le temps de réfléchir à quatre sujets qui me passionnent. L'être humain, la relation et les liens, l'engagement et la solidarité. Alors j'ai décidé de partager mes découvertes avec celles et ceux qui mettent la création de liens au cœur de leur vie. On va vérifier ensemble si, comme je le sens depuis toujours, la relation est vivante. Aujourd'hui, nous rencontrons Jérôme Barre, qui est cofondateur et membre de l'équipe de l'association Equitaz. Nous allons parler de collectif, de citoyenneté, de cailloux qui réparent et de cailloux laissés sur les bureaux des institutions. Nous allons approfondir la question des émotions en regardant le rêve, la colère et le désir, parce qu'elles sont à la base de nos mouvements. Et nous allons aborder des techniques d'animation qui commencent par le lien individuel et continuent avec la régulation du collectif. Bienvenue Jérôme. Bonjour Jérôme, nous allons aujourd'hui boire un verre ensemble. Qu'est-ce que je te sers?
Bonjour, un café noir.
Dis-moi Jérôme, c'est quand la dernière fois que tu as créé un lien avec quelqu'un et qu'est-ce que tu as ressenti?
Je dirais que c'est ce week-end, dans un projet de théâtre où on était une cinquantaine de personnes et je n'ai pas créé un lien, j'en ai créé plein de nouveaux. Et c'est des gens avec qui on va faire un travail sur le monde à l'envers. Et voilà, j'ai ressenti beaucoup de joie de toutes ces nouvelles relations.
C'est quoi le monde à l'envers?
En fait, c'est le théâtre qu'on va écrire. Mais en fait, la question, c'est le monde à l'envers pour qui? Est-ce qu'aujourd'hui, on vit dans le monde à l'endroit? Est-ce qu'aujourd'hui, on vit dans le monde à l'envers? Moi, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde qui n'est pas complètement ordonné comme il faudrait pour qu'il soit à la fois juste et doux. Voilà, j'aspire à du changement.
Quel est ton parcours?
Alors, moi, j'ai fait des études à l'université, j'ai fait des études de géographie et en parallèle des études d'ethnologie, que j'avais envie de voyager et de rencontrer d'autres gens un peu partout dans le monde. Du coup, mon parcours professionnel, j'ai fait ces études-là, puis je me suis aperçu que je n'avais pas envie d'être dans une relation d'aide, dans un projet de coopération, donc j'ai travaillé en Seine-Saint-Denis pendant 4 ans. Sur organiser des groupes, monter un pôle d'économie sociale et solidaire. Ensuite, j'ai bossé en coopération, finalement, avec un peu de recul. Donc, j'ai travaillé en Argentine, au Sénégal et en Roumanie sur des projets de développement où l'idée, c'était toujours, dans chacun de ces projets, de valoriser les ressources et les compétences et les idées des personnes que je rencontrais. Et puis après, j'ai eu des enfants, donc j'ai eu envie de les voir grandir. Donc, je suis rentré en France, où j'ai travaillé pendant 7 ans pour la Fédération des centres sociaux de la Drôme. Et dans ce cadre-là, on a organisé des marches de lutte contre la pauvreté, qui a été une expérience géniale. Et à partir de cette expérience-là, avec un collègue, on a eu l'idée de créer Equitaz pour faire un travail à la fois d'organisation, de changement social, autour de la justice. comme centrale dans notre activité professionnelle.
Et qu'est-ce que c'est une marche de lutte contre la pauvreté, c'est ça?
En fait, on avait rencontré un leader paysan indien qui s'appelle Raja Gopal, qui avait organisé en Inde des immenses marches. La première, il y avait 50 000 personnes. La deuxième, il y avait 100 000 personnes pour demander un accès à la terre aux petits paysans et aux personnes membres des minorités ethniques en Inde. Et suite à cette rencontre, on s'était dit, on va faire la même chose, on va organiser dans la Drôme une marche qui s'appellerait « Ouvrons des voies pour une Drôme sans pauvreté », pour éradiquer la pauvreté dans le département. Et donc, on avait marché pendant 5 jours avec des personnes vivant la pauvreté, en organisant des débats chaque soir sur la place publique des villages où on s'arrêtait, pour arriver au conseil départemental avec 26 propositions. Et l'originalité, c'était d'être dans la capacité d'être ensemble avec des personnes qui vivent la précarité, puisque du coup, on marchait 12 km et il y a un principe d'égalité dans la marche, en sachant que, par exemple, il y avait un minibus qui suivait pour que des personnes qui étaient en situation d'obésité ou qui pouvaient être plus fragiles au niveau de la santé puissent quand même être avec nous dans ce moment-là. Et principe qu'on a incarné jusqu'au bout, puisque les propositions au conseil départemental ont été faites toujours par des binômes, une personne concernée par la situation et une personne qui l'appuie.
Oui, c'est extraordinaire.
C'était une très belle expérience.
Ouais. Oui, j'imagine. Qu'est-ce qui parle le plus fort chez toi, à l'intérieur de toi, le militant ou le travailleur social?
Moi, je ne me définis pas comme travailleur social, dans le sens où je n'ai pas de diplôme d'État, ni d'éduc, ni d'AS, ni de ce type-là, ni même de l'éducation populaire. Du coup, j'aurais plutôt tendance à dire le militant.
Ouais.
Après, si on va dans la finesse de la façon dont je peux définir ma posture, c'est une posture qui est vraiment entre les deux, dans le sens où je ne souhaite pas être porte-parole d'aucune cause sans les personnes concernées. Et en fait, il y a une image qui me vient qui définit assez bien, c'est l'image d'une rivière. Je ne sais pas si comment je raconte ça, mais en fait, si on essaie de passer une rivière qui a un courant important, il y a plusieurs façons de faire les choses. Il y a une façon qui est de porter les personnes, mais on n'est pas très stable. Et là, il y a une image peut-être qui revient avec la question du monde caritatif. Il y a une question de traverser en guidant la personne, mais par des mots. Moi, mon envie, c'est d'être avec la personne, c'est d'être à ses côtés, mais de traverser la rivière avec, quoi. C'est ni devant ni derrière la personne, d'essayer de construire un avec qui serait très fort, quoi.
Dans ce que j'entends, c'est qu'il y a, il y a besoin du lien, il y a besoin de la relation.
Oui, il y a besoin d'une relation forte, ouais, et équilibrée.
Et équilibrée, oui. Comment tu construis une relation équilibrée avec des personnes qui vivent la pauvreté? Puisque dans les représentations, il y a beaucoup de... On imagine dans les représentations d'une société comme celle dans laquelle on est, il y en a une qui est au-dessus, il y a une personne qui est au-dessus de l'autre. Et comment on construit cet équilibre? Parce que du coup, il faut déconstruire beaucoup de choses pour construire l'équilibre.
Oui. Moi, je crois que... Et je vais faire un lien avec la question d'avant sur le travail social. Je crois qu'en fait, pour être ensemble dans une action collective, quelle qu'elle soit, il faut pouvoir se connaître à la fois en tant qu'acteur social, avec une casquette éventuellement, mais aussi en tant que personne. Et ça demande de rentrer dans la question des émotions, que ça soit le désir, que ça soit la colère, et de rentrer des deux côtés, je dirais. Et donc, en fait, moi, quand je travaille avec des personnes, parfois, ça m'arrive de faire de la formation de travailleurs sociaux, et j'ai toujours trouvé que la frontière entre, par exemple, le privé et le professionnel était une frontière beaucoup trop épaisse, qui empêchait quelque part la relation de se construire à égalité. Du coup, moi, quand je travaille avec des personnes, j'utilise, si je devais faire des cases, j'en utiliserais 3. Je dirais, il y a du privé-privé, des choses qui ne regardent que moi, ma vie familiale ou ma vie intime. et que je l'ai gardé pour moi. Il y a du professionnel qui me permet de parler de mon association, des actions dans lesquelles on est. Et puis, il y a ce que moi j'appelle le privé partagé, qui est une partie de moi qui me permet de rentrer en relation avec les personnes et qui, en gros, fait une connexion sur pourquoi je suis engagé autour de la lutte contre le chômage, par exemple, ou pourquoi je suis engagé sur la question de la précarité des jeunes majeurs. En gros, enfin, ça me permet de raconter des histoires en disant, ben, quand je rencontre des jeunes précaires, je suis plus aussi jeune que ça. Bon, moi, je leur raconte que j'ai deux enfants qui ont 15 et 17 ans et que j'ai pas envie qu'ils grandissent dans un monde où les jeunes sont aussi maltraités qu'ils peuvent l'être dans la société française aujourd'hui. Et je me permets ça. Je travaille beaucoup avec des groupes de femmes dans des quartiers populaires. Ma condition de parent, ça m'aide à construire du commun avec les personnes. Et si je m'en privais, je couperais ou j'affinerais le lien avec les personnes. Après, très pragmatiquement, du coup, à Equitas, quand on rencontre des personnes qui vivent les situations de précarité, déjà, on a des, je dirais, des contraintes qui nous avantagent. C'est que, par exemple, on n'a pas de bureau. Et donc, où est-ce qu'on va rencontrer, où est-ce qu'on va tisser la relation? On propose toujours à la personne de choisir l'endroit où elle serait le plus à l'aise. Et donc, l'endroit où elle serait le plus à l'aise, ça peut être dans l'association où elle va déjà, dans son centre social, dans le CMS. Ça peut être dans un café, dans un lieu public, et ça peut y compris être chez elle, quoi. Et là, du coup, il y a quelque chose qui permet la rencontre. Et dans ces rencontres-là, nous, on essaye d'équilibrer la prise de parole. Et là, si je veux être caricatural, ce qu'on essaye d'éviter, c'est la posture, par exemple, du sociologue, enquêteur, parfois du travailleur social, qui va uniquement poser des questions et qui va ne jamais parler de lui. Donc, il va collecter quels sont les besoins, quelles sont les envies de la personne, mais sans forcément livrer quels sont ses propres intérêts, ses propres motivations, ses propres intentions. Et donc, nous, quand on rencontre des personnes qui sont au chômage pour créer des collectifs de chômeurs, on leur dit en quoi la situation de chômage nous indigne, pourquoi notre association elle a décidé de s'en emparer. Donc, là, c'est une posture à éviter. L'autre posture à éviter, ce serait une posture de militant. Dans le mode avant-garde éclairé. Nous, on travaille beaucoup sur ces questions-là, on sait exactement ce qu'il faut faire, et en gros, on prend 80% la parole pour que les personnes, au sortir de l'entretien, nous suivent, quoi. Et nous, ce qu'on essaie, c'est de provoquer cette rencontre-là, tisser des liens interpersonnels et essayer de se rencontrer au milieu, entre la situation de la personne et quelle est l'intention, nous, qui nous anime et qui nous motive.
Et les personnes que vous rencontrez sont accueillantes de tout ça?
À fond. Mais en fait, on donne de la confiance pour en recevoir, je crois. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On essaie de mettre en place une spirale comme ça, en disant, ben, nous, on se livre un peu, donc on vous propose de faire ce pas-là. On va prendre le temps de faire connaissance, donc propose des marges qui ne sont pas hyper importantes. Donc en gros, on ne dit pas aux gens, venez avec nous pendant 6 mois, on va faire des choses extraordinaires, mais on leur dit, eh ben, on va se rencontrer à 25 pendant une journée et on va réfléchir ensemble ce qu'on aimerait faire pour lutter contre la précarité dans notre département. Et puis suite à ça, on leur propose de revenir, 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 et puis de partir quand ils le souhaitent. Il y a quelque chose de plutôt inconditionnel, nous, dans la relation, qui marche assez bien, quoi. Les gens doivent se sentir libres pour s'engager, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Et justement, qu'est-ce qui ressort de, par exemple, les propositions que vous avez construites avec ce groupe, c'était quoi, par exemple?
Alors du coup, j'ai tiré le fil effectivement de ce qu'on fait avec ces groupes-là. Avec ces groupes-là, chaque fois, on propose aux gens d'avancer et dans leur parcours individuel, dans un cadre d'entraide. Donc par exemple, on essaie de sortir de situation de concurrence sur un marché de l'emploi en disant l'idée c'est de faire équipe. Donc on met en commun toutes nos ressources, tous nos contacts, tous nos carnets d'adresses, et vous verrez que chacun d'entre nous sera plus fort à travers cette dimension collective. Et puis, on leur dit aussi, sur les situations de chômage, on nous fait beaucoup trop croire que la responsabilité pèse exclusivement sur la tête des chômeurs. Or, la façon dont est construite la société n'est pas complètement juste, et c'est normal, la démocratie est toujours imparfaite et à parfaire. Donc, on a proposé de dire, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va saisir un sujet et sur ce sujet-là, on va essayer d'avancer. Donc, par exemple, les sujets qui ressortent, c'est des sujets autour, par exemple, de l'accès au droit. Il y a un groupe qui a travaillé sur l'accès au droit de personnes en situation de handicap, alors qu'on était à 70 km des points d'accès au droit. Donc, ça veut dire qu'on fait un petit diagnostic, après on rencontre des décideurs de la maison départementale des personnes en situation de handicap, et puis on a réussi à installer une permanence d'accès au droit dans un lieu plutôt très lointain, quoi. Parfois, il y a des questions de mobilité. Souvent, il y a des questions de relations qui ne nous conviennent pas avec les institutions, comme avec Pôle emploi. Et dans ces cas-là, on propose à l'institution de faire un travail commun pour avancer dans ces situations-là.
Et en face, du côté des institutions, il y a du répondant. Enfin, il y a un accueil, il y a une écoute, ou parfois il y a des portes fermées.
Oui. Non, non, c'est... Bah, moi, je dirais que ça marche en deux cercles. Le premier cercle, c'est on a toujours trouvé des alliés au sein des institutions. Quand on a besoin de comprendre comment ça se passe à Pôle emploi, on arrive toujours à trouver une personne au sein de Pôle emploi qui veut bien venir nous raconter, parce qu'il est mandaté ou de façon un peu pirate, comment ça fonctionne. Et on a toujours eu ces alliés-là. Et puis, dans un deuxième temps, quelque part, nous, on provoque la relation de façon assez, je dirais, rusée, mais unilatérale. C'est que, par exemple, on a un de nos outils qui marche le mieux, ça s'appelle les cailloux dans les chaussures. À un moment, on se disait, il faut qu'on puisse travailler sur les obstacles que les gens rencontrent dans leur parcours de vie et professionnel. Et puis, on travaillait avec des feuilles, avec parfois des feutres, du crayon, et ça ne marchait pas. Et une fois, on est arrivé avec un grand sac de cailloux d'une rivière pas très loin. Et puis, on a posé ces cailloux sur la table, et puis on s'est dit, ben, en fait, ce qu'on vous propose, c'est les obstacles que vous rencontrez dans votre vie, on va les symboliser par ces cailloux. Donc, vous allez choisir des cailloux, puis sur le caillou, vous allez poser un mot. Sur le caillou, vous allez faire un dessin, pour ceux qui écrivent moins. Puis, on va regarder ce qui ressort et quels sont les tas de cailloux collectifs qu'on va avoir. Et là, du coup, on se retrouve avec un tas de cailloux, avec des cailloux sur la santé, avec des cailloux sur la confiance en soi, des cailloux sur la mobilité, des cailloux sur il n'y a pas assez de boulot, il n'y a pas assez d'emploi, ou j'ai pas une formation qui correspond à ce que je veux faire. Et on va commencer à trier ces cailloux, voir quels sont les cailloux collectifs, et puis après se poser la question de qui a du pouvoir pour nous aider à enlever les cailloux de nos chaussures. Parce qu'il y a une image qui est, en fait, quand on a un caillou dans sa chaussure, c'est que la personne qui a la chaussure qui peut dire là où ça fait mal, qui nous intéressait bien. Et donc, on fait le tri des cailloux, et parfois, il y a des cailloux qu'on dit, ben, ces cailloux-là, c'est nous-mêmes qui avons du pouvoir pour les enlever de nos chaussures, comme par exemple la question de la confiance. C'est-à-dire les cailloux sur la confiance, on fait le pari qu'au bout d'un mois, les personnes, ce caillou-là, ils peuvent les rejeter dans la rivière ou dans la nature. Ce qu'on fait pour de vrai. C'est-à-dire qu'en gros, quand la personne, elle s'est débarrassée du caillou, elle reprend son caillou, elle va le rejeter dans la nature. Donc, si vous passez dans la Drôme, que vous voyez des petits cailloux dessinés ou avec un mot écrit dessus, c'est bon signe. C'est que ça va mieux pour des personnes, mieux pour la société. Et puis, il y a d'autres cailloux qu'on va emmener sur le bureau d'un élu, sur le bureau d'un technicien d'une collectivité locale. Clairement, sur la question des déplacements, par exemple, on va inventer des solutions en disant, ben, on peut faire du covoiturage. Mais parfois, dans la Drôme, qui est un territoire assez rural, besoin d'aller discuter du plan de transport, de là où il y a des bus, là où il n'y a pas de bus. Donc, on demande un rendez-vous à l'élu, puis on arrive avec notre caillou et on lui raconte tout ça. Ce que je viens de raconter là, on lui raconte l'histoire en disant, ben, on a fait les cailloux, il y a des cailloux dont on peut s'emparer. Et en fait, on délègue pas toute la responsabilité du problème. Mais il y a des cailloux où on a besoin que vous agissiez dessus. Donc, du coup, on discute avec lui, puis à la fin, on lui laisse le caillou. Souvent, l'élu, il repousse le caillou, il dit, ah, vous avez oublié votre caillou. Et nous, on dit, non, non, c'est plus notre caillou, maintenant, c'est votre caillou. Et en fait, ce qui nous intéressait, c'est que le caillou, il ne rentre pas dans une pile de dossiers. Donc, il va prendre une place physique sur le bureau de l'élu, qui fait que potentiellement, il va avoir à cœur de s'emparer de ce problème-là. Aussi, il va avoir à cœur de s'en emparer parce que on a fait un travail de fond, d'analyse de la situation. On lui amène des témoignages et lui on amène déjà de bouts de solutions de bricolage qu'on a pu nous inventer, quoi. Et puis on se permet d'avoir un droit de suite en disant, ben, après, à vous de nous dire quelles sont vos contraintes, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Mais en tout cas, on attend une réponse de votre part.
Je trouve et j'aime bien cette image, ce que tu racontes, ça fait vraiment rencontre d'experts. Du coup, chacun vient avec son expertise, donc l'élu avec son expertise du territoire et son mandat, vous arrivez avec l'expertise de la vie des personnes qui vivent la Drôme, qui vivent la précarité, qui ont des vraies questions. Et donc ça fait une rencontre forte à laquelle faut que j'imagine les personnes qui vous accueillent sont obligées d'entendre puisque tout est préparé, enfin puisque vous arrivez non seulement avec un caillou mais avec un dossier constitué quoi.
Pour nous, c'est un travail de construction de citoyenneté. En disant, la citoyenneté, ça peut être résoudre en direct des problèmes dans sa communauté, sur son territoire, mais parfois on a besoin qu'il y ait des politiques publiques, la puissance publique agisse. Et dans ce cas-là, le rôle du citoyen, c'est à la fois un rôle de veille, puis d'amener le problème, quoi. De faire en sorte que le problème, il remonte dans l'agenda des élus, quoi, en haut de la pile, quoi. Moi, mon travail et le travail des groupes, c'est souvent ça, faire remonter des dossiers en haut des piles, quoi.
Laisser les cailloux sur les bureaux.
C'est ça.
Ouais. C'est passionnant. Merci. Merci beaucoup pour tout ça. Dans les groupes que vous constituez, comment vous passez de la problématique individuelle à la problématique collective?
Bah déjà, je pense que chaque groupe est différent et c'est pour ça qu'on a défini un métier qui s'appelle artisan de justice sociale. Il y a une dimension d'artisanat qui est pour nous au cœur, mais sur la question de l'articulation de l'individuel et du collectif, bah nous, on dit notre métier, c'est d'animer du collectif, mais on est incapable de le faire sans tisser des relations de confiance dans l'individuel. Donc, on commence souvent la mobilisation par des rendez-vous autour d'un café, thé ou d'autres choses, en tout cas. Mais il y a d'abord un entretien individuel qui nous permet de nous connaître avec la personne et que la personne arrive dans le groupe avec déjà une personne connue, un peu connue. Et des idées, des règles de fonctionnement, de comment est-ce qu'on fonctionne dans le groupe. Du coup, ça démarre par là. Après, on va fonctionner principalement en groupe, mais pas toujours en grand groupe. C'est-à-dire pour continuer à travailler avec les personnes et à partir de leur situation. On a besoin de faire des temps par deux, des temps par trois, des temps en petits groupes, puis des temps en plénière. Autrement, il y a un processus d'inégalité qui va s'accroître dans le groupe. C'est que les bavards vont prendre une place trop importante, alors que si on passe toujours d'un petit groupe au grand groupe, il y a quelque chose qui va bien. Chacun peut nourrir la dynamique collective par ses contributions. Et nous, on met en avant ce truc-là, en disant, on a besoin de la contribution de chacun. Donc, on va mettre en place des processus qui permettent à chacun de raconter ses histoires. On va demander aux bavards d'être attentifs à ceux qui le sont moins. Et progressivement, on crée une culture dans le groupe qui est vraiment un cercle avec à la fois du vide au centre, donc de la capacité à construire vraiment à partir des idées du groupe et on ne propose pas d'activités préconstruites, et à la fois qu'on soit à peu près à équidistance du cercle, c'est-à-dire qu'on ne perde personne. Et on a cette attention-là de façon permanente. Parfois, on re-régule le fonctionnement du groupe en refaisant des entretiens individuels. Si on sent qu'il y a une personne qui est trop loin, on va lui proposer de se voir une fois et d'en causer avec elle, quoi.
Ce qui m'intéresse vraiment beaucoup, et ça fait lien avec ce que tu disais tout à l'heure au début, c'est que vous êtes hyper investi. Hein, rien ne marche sans votre investissement, votre engagement dans les relations, et au groupe, et entre vous, et avec les personnes individuellement. Et ça, moi, j'ai peur parfois que dans le travail social en général, hein, le grand travail social, on en fasse l'économie, en fait, de ce lien individuel qui permet de mobiliser. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ouais, enfin, je suis d'accord sur cette histoire d'investissement. Pour moi, en fait, là où on est le plus investi, c'est que pour moi, on fait de l'animation de haut niveau quand on est capable d'animer avec les émotions des gens. Et n'être ni coupé de ses propres émotions, ni en capacité de travailler à partir du. Nous, notre matière de travail principale, c'est le rêve et la colère. Et donc, il faut pouvoir l'accueillir. Et en fait, quand on démarre avec des groupes, ce qu'on dit aux gens, c'est vous allez voir dans la façon dont on va bosser, parce qu'on va travailler sur des choses importantes pour nous, parce qu'on va travailler sur des questions vitales. Il va y avoir de l'émotion et nous, on a tous les outils pour être en capacité de l'accueillir. Pour autant, on n'est pas un espace thérapeutique. C'est-à-dire, on doit pouvoir dire stop à certains moments en disant, moi, je ne suis pas psychologue, mais par contre, quand il y a de la colère, on est capable de l'accueillir. Quand il y a besoin d'arrêter dans un groupe, de faire une grande, grande pause, d'aller s'aérer ou d'aller faire une marche parce que émotionnellement, on n'est plus en capacité d'avancer, on est capable de le faire. Et c'est ce qui fait qu'on a un lien qui est hyper fort avec les gens. C'est que ces espaces-là, ils sont plutôt rares dans notre société. Et que des gens qui sont plutôt abîmés, parfois, dans le cas des travailleurs sociaux, se protègent. Et je ne leur jette pas la pierre. Nous, on a aussi la capacité de se donner du temps avec les gens, beaucoup de temps. C'est quand on anime des collectifs de chômeurs, on anime des collectifs, on fait 2 heures et demie. De temps en groupe par semaine avec les personnes, avec un groupe de 8-10 personnes et pendant 6 mois. Donc on a ce temps-là, on a le temps de faire connaissance, on a le temps de construire de la confiance et c'est ça qui permet après d'aller plutôt loin dans l'engagement, dans la capacité d'être en vérité les uns avec les autres et dans notre regard sur la société.
Tout à l'heure, je regardais, en préparant, je regardais une vidéo, une vidéo sur le site d'Aïkitaise. Et à un moment, il y a un animateur qui dit, qui est dans l'animation d'un groupe, à partir des colères que vous avez, que vous vivez, on va monter des propositions, on va créer des propositions. Et toi, ça sert, pour toi, d'après toi, d'après vous, à Aïkitaise, elle sert à quoi la colère? C'est quoi la fonction de la colère?
Ben pour nous, en fait, ce qui nous mobilise, c'est toujours nos émotions. En fait, le mot mouvement et le mot émotion, il a la même racine. Après, la direction dans laquelle on se mobilise, ça mobilise notre tête, notre intelligence, etc. Mais ce qui fait moteur, c'est les émotions. Et donc, pour nous, les deux grandes émotions, c'est la question du rêve et de la colère, qui peuvent souvent être vues comme les deux faces d'une même pièce, en fait. Souvent, au dos d'une colère, quand on est hyper en colère parce que, y a du racisme dans notre société, il y a un rêve, en fait, qui est une société de plus de fraternité. Donc après, on le prend dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, il y a des personnes qui ont de la facilité à sortir une colère, il y a des personnes qui ont de la facilité à sortir du rêve. Mais quelque part, ça nous emmène toujours dans une trajectoire de changement, en fait, ces deux émotions-là. Et puis pour moi, elle sert aussi à tenir dans la durée. C'est que, en fait, si on n'arrive pas à atteindre la colère ou le rêve des gens, les gens, ils viennent parce qu'ils nous aiment bien, parce qu'ils ont de la confiance en nous, parce qu'ils viennent avec un copain, parce qu'ils s'ennuient chez eux, mais que quelque part, parfois, quand on a besoin, par exemple, de faire le pas, d'aller poser un caillou sur le bureau d'un élu, c'est quand même hyper haut, quoi. Et donc, pour agir en dehors du groupe, il faut un moteur qui est plus fort que le seul fait d'être bien ensemble, même si être bien ensemble, créer un cocon, c'est quelque chose qu'on fait et qui est hyper important. Mais à un moment, il faut pouvoir sortir du groupe, aller à l'extérieur, parce que se transformer, transformer la société, ça se fait par la rencontre, ça se fait par l'interpellation. Et là, il y a une marche qui est haute, quoi. Et pour nous, c'est ça, c'est ces histoires de colère ou de rêve ou de. Parfois, on parle du désir, nous, comme aussi quelque chose avec lequel on travaille. Et le désir, en fait, étymologiquement, c'est la même racine que l'étoile. C'est desiderare, qui est constater l'absence d'une étoile. Et c'est un peu ce qu'on va chercher, quoi. C'est que les gens, ils aient à l'horizon un espèce de changement qui n'est pas quelque chose qui est dicté par l'extérieur, mais qui sentent important pour eux, parce qu'ils en ont besoin dans leur parcours, ou qu'ils sentent que la société, elle serait meilleure, plus douce, plus juste, en tout cas, si on arrivait à aller vers ce changement-là. Et c'est des. Enfin, et en fait, c'est des sentiments qui sont hyper forts et qui vont marquer leur parcours. Souvent, enfin, nous, on ne réussit pas tout avec les gens. Parfois, on tente des choses et puis au final, on arrive à faire un peu de bricolage, mais il n'y a pas de politique publique qui sont mises en marche pour transformer les choses. Mais les gens, ils ressentent quand même une forme de fierté, en fait. Ils disent, ce moment-là, il est important pour moi. Dans ma vie, il est important. Peut-être que je suis toujours au chômage, mais raconter que j'ai participé à cette lutte pour obtenir des droits pour les personnes en situation de handicap, c'est quelque chose que je raconte à mon entourage, c'est quelque chose que je peux raconter à mes enfants. Et en tout cas, ça marque les personnes. Et ils nous le disent sur le moment, parfois ils nous le disent 5 ans après quand on les revoit. Pour moi, il y a des émotions négatives, mais les émotions négatives, par exemple, c'est le sentiment d'impuissance qui provoque une forme d'écrasement de la vie des gens. Ou par exemple le ressentiment. Là, on est dans des émotions qui vont réduire la personne, en fait, presque son champ de vision. Mais pour moi, la colère ou le rêve, c'est ce qui ouvre, en fait. C'est ce qui ouvre à des changements. Et après, il faut pouvoir le travailler avec douceur. Du coup, nous, on a des stratégies autour de. Enfin, on introduit aussi la poésie à ce moment-là pour à la fois décaler. Et être en capacité de faire quelque chose d'une colère, qui est souvent une colère individuelle, mais d'en faire une force de changement, quoi, collective et positive, quoi.
Moi, souvent, enfin, à partir du moment où j'ai compris ce qu'il y avait derrière la colère, ça m'arrive pas à tous les coups, mais en tout cas, quand je travaillais en accueil de jour, je me disais qu'en fait, finalement, la personne qui exprimait sa colère, quand il n'y avait pas de violence, parce que la violence pouvait être un paramètre, mais quand c'était une expression de la colère vive et de sa colère, je me disais que c'était un beau cadeau qui nous, enfin, un cadeau, pas un beau forcément, mais un cadeau qui nous permettait d'avoir accès à justement ce qui était le plus important pour elle, à sa dignité, à ce qui faisait d'elle, de cette personne, une personne debout,
Oui,
encore
ouais.
debout.
Ouais. Mais parfois, enfin, je trouve dans le travail social, à la fois la colère fait peur, à la fois l'inconnu fait peur. Et aller travailler avec les émotions, c'est aller être en capacité d'accueillir ce qui vient, tout en ayant l'humilité de dire, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Mais en tout cas, si c'est chez vous, c'est sûrement le matériau avec lequel on va devoir travailler. Et souvent, on a un espèce d'écrasement par les dispositifs de ces émotions-là. On va proposer comme un tuyau parce qu'on a peur de créer un espace dans lequel on va accueillir des choses dont on ne saura pas que faire, quoi. Et puis de dire, je pense, de pouvoir dire, on va faire de la recherche ensemble, quoi. Moi, c'est quelque chose que je dis beaucoup avec les gens en disant, moi, je n'ai pas les solutions, mais j'ai une expérience qui fait que potentiellement, j'ai confiance dans le fait qu'on soit en capacité ensemble de trouver des chemins pour faire des propositions. Et je vous donne aucune garantie. La seule garantie que je vous donne, c'est comme mon histoire de rivière, c'est qu'on ira ensemble. On réussira ou on échouera ensemble. Mais moi, je n'ai pas de solution pour vous et je n'ai pas de garantie sur le fait qu'on arrivera au bout de toutes les propositions, de tous les changements qu'on aimerait viser.
Et justement, tu parlais des émotions. Et toi, quelles émotions fortes tu vis dans ton quotidien, positives ou négatives, mais quelles sont les émotions que tu vis en tant que, j'allais dire, créateur de liens ou militant en lien, ou je ne sais pas comment on peut.
Ouais, je pense qu'elles sont forcément complexes. Ce que je commencerai par dire, c'est ce que je dis souvent quand je rencontre des gens qui travaillent dans ces secteurs-là, c'est que de travailler sur la relation en lien avec d'autres humains, c'est une richesse incommensurable en fait. Moi, je rencontre 200 nouvelles personnes, 300 nouvelles personnes par an. Et je trouve, enfin, j'en tire une richesse personnelle. J'apprends de moi, j'apprends des autres, j'apprends de la société. C'est jamais répétitif et faut avoir le goût des autres, quoi. Et quand on perd ce goût-là, faut sûrement changer de métier parce que y a une phase sombre aussi. Pour travailler beaucoup avec des personnes qui vivent les situations de précarité, qui ont des problèmes de santé, on éponge parfois ces choses-là. Et il y a des soirs quand on ramène chez soi un problème qui n'est pas le nôtre. Mais en tout cas, d'avoir la connaissance et d'avoir ce lien-là et d'être touché par ces personnes-là, ou que ces personnes-là vous ramènent des choses qui vous ramènent à des propres émotions ou à vos propres parcours, ce n'est pas évident. Donc il y a une espèce d'équilibre entre les deux, en fait, de pouvoir se réjouir de cette construction de lien et de l'assumer quelque part, en disant, enfin, on est interdépendant. Moi, je dis beaucoup, moi, je ne me laisse pas abîmer par la relation, mais je vois là où la société est abîmée, par les situations vécues par les gens. Et ça me donne une espèce d'optimisme, un peu de combat, quoi.
Est-ce que ça t'arrive de vivre, toi, le sentiment d'impuissance? Et qu'est-ce que t'en fais de ce sentiment? Où ça te parle pas de toi?
Si, forcément, ça me parle de moi. Moi, je partage une commune humanité avec les personnes que je rencontre. Ça, c'est un mot qu'on a aussi parfois pratiqué. La façon dont on essaye de lutter contre ce sentiment d'impuissance, par exemple, c'est d'essayer d'avoir des propositions à plusieurs niveaux. C'est souvent quand on a bien analysé, quand on a bien trouvé un caillou qu'on avait envie de s'emparer avec un groupe. On essaie de trouver des solutions à 3 semaines, à 3 mois et à 3 ans, par exemple. Et donc, par exemple, on essaie de trouver des solutions de bricolage qu'on peut faire en autogestion, seul. C'est l'exemple que j'avais sur la mobilité, c'est ça, c'est de pouvoir dire aux gens, ah, il y a un problème pour aller au marché, parce que pour les plus vieux, ceux qui n'ont pas de véhicule, ce n'est pas possible. Allez, chiche, dans 2 semaines, on se retrouve avec 3 véhicules personnels d'entre nous sur la place du village et on va ensemble au marché, on met en place du covoit. Là, on a directement une solution qui nous sort du sentiment d'impuissance, mais qui est parfois insuffisant. Donc après, c'est comment on arrive à mettre en place un minibus associatif, et puis après, comment on arrive à transformer les lignes de transport, plan local de transport du conseil départemental. Mais ça, on sait qu'il va nous falloir peut-être 3 ans pour faire ça. Donc il y a quelque chose sur les petites victoires qui nous permet de vivre ça. Et puis moi, je dis souvent, ce que je vise avec les gens, c'est de la joie, des droits et des lois. Et en fait, il y a quelque chose qui est directement profitable au groupe que j'essaye de viser dans. On parle beaucoup de ce qu'on apprend dans les groupes, et y compris de ce qu'on apprend pour soi. En quoi ma vie elle est différente juste parce que je participe de ce groupe-là et de cette action-là. Et ça marche à chaque fois, hein. Les gens ils disent toujours moi aujourd'hui je suis différent de la dame ou du monsieur que j'étais avant. Parce que j'ai gagné de la confiance, parce que j'ai construit de nouveaux liens, parce que j'ai mieux compris l'environnement et le monde dans lequel j'habitais. Mais après, ça, c'est insuffisant. Du coup, parfois, on dit, ben, comment est-ce qu'on accède à nos droits? Parce qu'il y a des droits existants. Et avec certains groupes, on est allé jusqu'à interpeller des députés et des sénateurs pour obtenir une proposition de loi. Parce que les politiques de sanctions pour les personnes au RSA, par exemple, sont aujourd'hui fondamentalement injustes et inefficaces. C'est ma marotte du moment, Donc on a plein de clés pour sortir du sentiment d'impuissance, quoi.
C'est quoi, toi, ton secret pour créer un lien?
C'est hyper dur comme question. Je crois pas que j'ai de secret, non, j'ai pas de secret. C'est ce que je racontais tout à l'heure. Déjà, j'ai du plaisir à ça. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du sourire ou des yeux qui brillent. Qui est quelque chose qu'à la fois je cherche et à la fois on me renvoie. Après, pour moi, l'humour, Alors, j'ai pas de secret, j'ai pas de recette, mais peut-être qu'il y a des ingrédients. Et dans les ingrédients, moi j'ai le pressentiment qu'un monde meilleur est possible, en fait. Je transpire ça. Et je pense que c'est dans les ingrédients. Il y a un truc qui me plaît bien chez Cynthia Fleury. Je sais pas si tu as lu Cynthia Fleury.
Non, mais je vais regarder.
Elle a fait deux bouquins qui sont géniaux, qui s'appellent La fin du courage et un deuxième qui s'appelle Sigille la mer, là comme l'amertume. Un qui est plus sur le ressentiment et l'autre qui est plus sur le courage. Et en gros, elle dit dans la capacité à être courageux, et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a l'imagination vera, qui est la capacité à imaginer un monde meilleur, quoi. C'est que si on n'a pas ça, ce n'est pas possible d'emmener les gens dans une aventure collective. Elle dit, il y a un truc qui est le precio doloris, elle fait du latin, donc je suis désolé, hein, je balance. Le precio doloris, c'est savoir le prix de la douleur. Et puis le troisième, c'est le ris comica. C'est la question d'être en capacité de rire aussi, parfois, du destin. Destin, ce n'est pas le mot qui convient, donc je raye. Mais en tout cas, de rire des situations pour ne pas se laisser aspirer dans des spirales un peu mortifères, quoi. Et revenir sur la capacité d'imaginer du mieux. Voilà, c'est des ingrédients.
Ouais, des ingrédients. J'ai entendu tout à l'heure, toujours en visitant le site d'Aikitas, et je l'avais déjà entendu, Aikitas, c'est relier le A et le Z de la société. Et voilà, si tu devais...
Ça résume pas tout ce qu'on vient de se dire, mais en gros, quand on avait décidé d'appeler cette association Equitas et qu'on avait mis un A et un Z majuscule, notre ambition, c'était de faire en sorte qu'on réarrive à faire société vraiment avec tout le monde, c'est-à-dire le A, c'est les personnes qui vivent les situations de précarité, de pauvreté, d'injustice dans notre société. Le Z, c'est les décideurs ou l'inverse. Chacun fait comme il veut. Et nous, on voulait pouvoir relier les deux en disant, pour qu'il y ait du changement, on ne peut pas être exclusivement dans une relation d'aide avec les plus précaires. On veut pouvoir interpeller un ministre si besoin, quoi, ou l'Union européenne. On était fous d'ambition et très ancrés dans le terrain. Enfin, on voulait quitter ni l'un ni l'autre de ces deux mondes-là. Ce qu'on a plutôt réussi à faire, le poétique et le politique, c'est un peu les deux mots qu'on voulait relier, c'est-à-dire à la fois travailler sur des situations de domination et pas se mentir, quoi, de dire il y a des rapports sociaux, il y a des rapports de domination dans notre société et ils nous abîment en tant que société, donc on va travailler là-dessus, on va être vraiment sur ces sujets-là et on va revendiquer de jouer depuis la société civile un rôle politique. Et on voulait le faire avec beaucoup de douceur et beaucoup d'imagination. Et pour ça, on avait besoin de se muscler l'imaginaire. Et pour nous, la poésie, c'était ça. Et il y a quelque chose qui nous plaisait bien, et peut-être que je peux terminer par là, qui est, il y a une définition d'Aristote de. En fait, au temps des Grecs, la politique et la poésie étaient liées, en fait. Dans Homère, dans l'Odyssée, c'est à la fois des récits poétiques et c'est à la fois des récits très politiques sur la société, sur les stratégies. Et du coup, Aristote disait que pour lui, la poésie, c'était cette capacité à se purger de la crainte et de la pitié pour faire advenir une commune humanité. En fait, la crainte et la pitié, c'est deux sentiments de relation inégale. La crainte, c'est quand on se sent écrasé en bas. La pitié, c'est quand on se sent en haut, au-dessus. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que la poésie, ça permet de faire advenir une commune humanité, c'est de dire, au final, on est à la fois interdépendants, on partage tous des vulnérabilités, des fragilités. Il y a quelque chose, du coup, de cet ordre-là qu'on essaye de faire vivre, nous, dans les groupes, en fait, qui est relié à la question des émotions, par exemple.
Il y a beaucoup de personnes qui écoutent le podcast qui sont soit bénévoles, soit professionnelles et qui sont amenées à faire vivre et à faire vivre la participation dans leurs associations, les lieux d'engagement. Qu'est-ce que tu pourrais, j'allais dire, donner comme conseil, mais c'est peut-être pas le mot. Qu'est-ce que sont les ingrédients d'une mobilisation citoyenne?
Alors, ce qui marcherait pour moi, dans une mobilisation citoyenne, c'est il y a vraiment la question d'une capacité d'être ensemble à équidistance. Ça veut dire d'arrêter de considérer les gens comme des usagers, comme des bénéficiaires. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de. En fait, on n'engage pas les gens quand on les met dans une position passive ou quand on se met dans une relation de service vis-à-vis d'eux. Ça commence par là. C'est de se dire, on est ensemble en tant que citoyen pour faire avancer une question politique. Et ça, il faut pouvoir l'assumer. En termes de posture et en termes d'ambition. Puis la deuxième chose, c'est vraiment quelque chose que je dis souvent, c'est qu'il faut aller chercher la joie, quoi. Une espèce de joie subversive d'être ensemble, de bousculer les choses, de ne pas se laisser ronger par tout ce qui peut être difficile, de tenir une action dans la durée, d'être confronté parfois à trop d'adversité, d'avoir des accidents de la vie, etc. De maintenir le fait qu'il y ait du plaisir à être ensemble. Et en fait, plus on est sur des questions de colère et des questions vitales, plus il faut pouvoir mettre de la joie et avoir de la créativité ensemble, quoi. Et
Merci.
puis, que sortir de sa zone de confort, parfois, c'est vraiment quelque chose qui est génial. Avoir un peu cette excitation-là. Être tenté par faire autrement. Et voilà. Osons la relation, quoi.
Osons la relation. Merci.
Si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à rebondir et à m'envoyer un petit message. Je suis intéressée de savoir ce qui t'a parlé et interpellé. Tu peux m'écrire à annepaul@osonslarelation.com. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Si tu veux en savoir plus sur Osons la Relation, tu peux t'inscrire sur le site www.osonslarelation.com. Tu recevras deux fois par mois une invitation à faire une pause et à t'inspirer. Enfin, partage à qui tu le souhaites ce podcast. Comme tu le sais si bien, plus on est de fous, plus on rit. Et plus on est de créateurs, plus il y a de liens. En attendant de boire un nouveau verre ensemble avec un nouveau créateur de liens, je te donne rendez-vous le 5 dans ta boîte mail pour faire une pause café et découvrir une nouvelle inspiration. À très bientôt!